des questions qui se posent dans la vie et dans l'art, et on essaye de trouver une solution à ces questions. Donc ces questions sont à la fois des questions formelles et des questions métaphysiques.
La deuxième heure du grand atelier pendant ce confinement numéro 2 nous permet de retourner dans l'atelier d'un artiste. Aujourd'hui, nous partons dans celui de Christian Boltanski, le plasticien à qui le Centre Pompidou à Paris a rendu hommage récemment avec une rétrospective. Il habite près de Paris avec sa femme Annette Messager. Direction Malakoff.
Depuis le début, de sauver ce que j'ai appelé la petite mémoire, c'est-à-dire la mémoire quotidienne, la mémoire des petites choses qui n'est pas dans les livres et qui constitue un être humain. Tout artiste essaye d'arrêter le temps, de redonner vie, et qu'on ne peut pas redonner vie.
L'atelier de Christian Boltanski.
Je me rapproche de vous.
Vincent Joss. Une émission montée par Karen Dehé, réalisée par Marie Guérin.
Le voilà, Christian Boltanski, entre deux voyages, dans son atelier de Malakoff, près de Paris. Un endroit vaste où s'entassent des chiffons, des photos en noir et blanc, des boîtes, des ampoules. On reconnaît ces matériaux qui, une fois assemblés dans des installations, suscitent tellement d'émotions. Boltanski crée des œuvres qui parlent de la mémoire d'une vie, avec des photos d'inconnus assemblées sur un mur, ou des boîtes à biscuits en fer blanc qui semblent avoir appartenu à quelqu'un. Marquées par l'Holocauste, l'absence saute aux yeux, souvent, dans les œuvres du plasticien, comme au Grand Palais, quand une énorme pince prenait des vêtements et les laissait tomber, faisant de cette montagne d'habits une fosse commune peu ordinaire. Là, on est vraiment chez vous. Là, l'atelier de Christian Boltanski, c'est... Vous pouvez dire c'est chez moi.
Oui, c'est chez moi. Oui, c'est chez moi. Là-dessus, c'est plus tout à fait chez moi, puisque nous sommes filmés, vous et moi, en ce moment. Donc c'est chez moi et chez David Walsh, puisqu'il nous voit en ce moment, ou qui, en tout cas, il va conserver notre rencontre.
Un milliardaire qui a passé un pari avec vous.
C'est pas vraiment un pari, c'est-à-dire que il y a une œuvre qui se constitue, donc c'est une œuvre ultime puisqu'elle sera constituée qu'à la fin de ma vie, et donc mon atelier est filmé par trois caméras, c'est envoyé en direct, et lui s'est engagé à préserver toutes ces DVD que je sois dans l'atelier ou pas dans l'atelier. Donc maintenant, ça fait plus d'un an que ça a commencé, et donc il y a déjà beaucoup de DVD entassés, et donc c'est comme si ma mémoire était partie là-bas. Donc le pari joue sur autre chose, le pari joue sur le mode d'acquisition de cette œuvre, dont j'ai demandé que l'œuvre soit acquise en viagé. Et donc effectivement, il y a un paiement jusqu'à la fin de ma vie, et plus ma vie sera courte, plus pour cet homme le là, ce sera intéressant, disons.
C'est une certaine rente par mois ?
C'est pas très intéressant, mais disons c'est un peu d'argent. Et donc, lui pense que je vais mourir avant 7 ans. Il a parié sur le fait que je meurs avant 7 ans. Ce qui est tout à fait vraisemblable. Je ne le souhaite pas, mais c'est, disons, c'est dans les... Il a sans doute raison. Donc c'est une chose qui est tout à fait vraisemblable, disons. C'est une chose pas étonnante, enfin.
C'est vous qui avez placé les caméras ?
Oui, c'est moi qui... En principe, on a fait ça avec un technicien pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait d'angle mort.
Et c'est pas gênant d'être vu ?
J'oublie complètement aujourd'hui. Vraiment, j'oublie. Les premiers jours, je me suis promené 2 ou 3 fois tout nu pour lui faire plaisir, ce qui n'était pas un très beau spectacle, je dois dire. Mais enfin, je lui ai dit, au moins, il aura quelque chose. Non, il est assez spécial. Il voulait acheter mes cendres, mais je me suis refusé.
Le fameux...
Oui, tasmanien.
Oui.
Et moi, j'ai pas envie de terminer en Tasmanie.
Vous voulez terminer où ?
J'ai toujours, mais c'est trop compliqué. Mais si j'avais un choix, ce serait plutôt au Japon, dans mon île.
Qu'est-ce que vous parlez de l'âge et du peu de temps qui vous reste, hein, Christian Boltanski ? Ça me frappe.
Ben, je disais, je crois qu'il faut être bien avec ça. Et que je suis, par exemple, plus optimiste et plus heureux qu'il y a quelques années.
Pourquoi ?
Parce que justement, je suis bien avec cela. Ça vient d'une manière lente et petit à petit. Et, d'abord, il y a des choses qui sont une chose merveilleuse de vieillir, c'est qu'on a prouvé sa vie. C'est très prétentieux de dire ça, on n'a jamais prouvé sa vie. J'ai fait des choses que j'avais envie de faire. Voilà. Quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à peindre vers 14-15 ans, et je voulais être peintre, et ben j'ai été peintre. J'ai eu cette chance énorme. J'ai eu une vie absolument extraordinaire. Je n'ai eu que de la chance, toute ma vie. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par plaisir. Quand j'ai été enseignant longtemps, c'était par plaisir. Je l'ai toujours pour m'amuser, et ça c'est pour embêter, comme on dit. Je dis toujours que je n'ai jamais travaillé de ma vie. Et je suis aujourd'hui totalement libre. Je n'ai pas exposé dans une galerie à Paris depuis, je crois, 6 ou 7 ans. J'en ai pas envie. Je ne le fais pas le jour où j'en aurai envie, je tâcherai de le faire, peut-être que je n'aurai plus jamais envie. Mais disons, cette liberté est une chose extrêmement heureuse et l'acceptation d'avoir fait ce qu'on devait faire, d'être libre et de savoir aussi que, voilà, les choses sont, il faut profiter de chaque instant. Il faut profiter aujourd'hui de chaque instant, me rend beaucoup plus heureux que je l'étais il y a une dizaine d'années.
François Andy Atlas Mountain, coucou.
l'œuvre de Boltanski nous parle de mémoire et d'effacement. Né en 1944, l'artiste a vécu jusqu'à ses 18 ans sans sortir de la maison familiale, entouré de sa famille et des amis de ses parents, survivants de la Shoah. Dans son atelier de Malakoff, où il nous emmène, il évoque la trace, ou justement l'absence de trace que laisse chacun sur Terre.
Est-ce qu'on peut bouger un peu ? Puisqu'on est dans votre atelier, qu'on a cette chance d'être... J'allais dire là où ça se passe, là où Christian Boltanski travaille ou ne travaille pas, mais est obsédé, bon qu'à ça.
Mon atelier est un peu en désordre, comme vous le voyez.
Alors là, on est sur une sorte d'étage de mezzanine.
Mezzanine, voilà, et en dessous, il y a le vrai atelier, il y a des choses qui sont en attente.
C'est quoi ces sacs de couchage qui sont posés sur je ne sais pas quoi, des trépieds, des...
Là, je veux dire, c'est des pièces qui ne sont... des œuvres qui ne sont pas faites et qui ne seront peut-être jamais faites. Mais là, ce qui m'intéressait, c'est que chaque sac de couchage représente effectivement quelqu'un. Et quand on les dresse comme ça, il devrait y en avoir beaucoup, il devrait y en avoir une cinquantaine. S'il y en avait vraiment comme une sorte de foule, ou comme des pénitents. Et donc, les sans-abri se dressent. Il n'y a plus cette notion de coucher sur le sol, ils se dressent et ils marchent vers nous. Et donc, si je finis un jour cette pièce qui n'est pas sûre, j'imagine qu'il y en a énormément dans une salle et qu'on a l'impression vraiment que tous ces gens s'avancent vers nous. Mais peut-être que tout ça va se transformer complètement ou que cette chose va être jetée dans très peu de temps. Vous savez, je ne peux pas du tout vous assurer que cette œuvre va jamais exister.
Je ris parce que votre regard va aussi sur votre atelier, là, va vers ces choses qui sont par terre, cette couverture, et vous continuez à vous demander ce que vous allez pouvoir en faire.
Absolument, absolument. Là, ces bouts de bois m'ont été livrés il n'y a pas très longtemps. Oui, là, par exemple, c'est pas moi qui ai coupé tous ces bouts de bois. J'ai demandé qu'on me livre des bouts de bois.
Qui servent donc de corps au sac de couchage.
Voilà, donc maintenant, ça va traîner là. Je vais acheter des sacs de couchage, je vais les mettre dessus, je vais me percevoir que c'est pas bien, je vais essayer autre chose. Voilà. Et puis j'aurai ces bouts de bois, et peut-être qu'un jour, ces bouts de bois, ils vont finir à la cave, cassés, ou peut-être qu'un jour, ça sera des œuvres. C'est une chose complètement... qui est vraiment une sorte de long cheminement, quoi.
C'est de l'ordre de la méditation ?
C'est un cheminement, et qui ne fonctionne pas toujours. Et puis, là, il faut que mon prochain travail, c'est d'aller dans un magasin de sport, m'acheter des sacs de couchage.
Par dizaine ?
Par dizaine, voilà.
Et les gens vont vous demander pourquoi, non ?
Je ne connais pas. Mais c'était les fabricants de boîtes de biscuits qui se posaient beaucoup de questions, parce que j'ai quand même dû, dans ma vie, utiliser dans le genre 5000 ou 6000 boîtes de biscuits. Et alors là, je leur avais fait croire que j'étais fabricant de biscuits, et je leur disais, j'ai une spécialité pour Noël, j'ai besoin d'une livraison très rapide, est-ce que vous pouvez me les amener très très vite? Et donc, effectivement, là, j'ai été pour eux fabricant de biscuits pendant un certain temps, comme ça. Vous savez, on a des aventures toujours étranges, puisqu'on parle de cet atelier. J'ai travaillé beaucoup avec des photos de cadavres, qu'après ça je cache, je trouve qu'on ne doit pas montrer les photos de cadavres, donc je les cache derrière des draps après, mais que j'ai exposés, qu'on sait qu'ils sont en dessous. Et une fois comme ça, j'avais beaucoup de photos de cadavres au mur, en noir et blanc, mais des grandes photos. Et puis il y a un livreur du BHV qui arrive pour un truc comme ça à 8h du matin, j'étais complètement abruti à 8h du matin, j'ouvre, il lance ça. Il voit plein de vêtements par terre, et puis toutes ces photos de cadavres au mur, il a déposé le truc qu'il devait m'apporter, il est parti en courant, je me suis dit, il va aller chez les flics, il va les prévenir.
Il y a l'assassin Boltanski.
L'assassin Boltanski, comme ça. Donc là, il y a encore des douilles, plein de douilles, des lampes cassées, des morceaux de tissu, des bouts de carton.
Un balai, donc vous faites un peu le ménage.
Voilà, je fais le ménage de temps en temps. Une énorme bâche avec un morceau de corps à l'intérieur.
Comment ça, un morceau de corps ?
Pas une photographie d'un corps. Mais tout ça est extrêmement en attente. La plupart du temps, je ne fais rien. Je travaille extrêmement peu, je passe mon temps à regarder des choses très bêtes à la télévision très souvent.
Quoi, par exemple ?
Ce qu'il y a de plus bête, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, mais
vous êtes comme Chabrol qui regardait des feuilletons ou des jeux télévisés, surtout ?
Voilà, des jeux télévisés. Non, si vous voulez, il y a parfois, le travail artistique est une chose très étrange, c'est-à-dire que on est dans une sorte de moment quand on cherche, on est comme devant une palissade. On cherche quelque chose, mais on n'arrive pas à franchir cette palissade. Et pendant, ça peut durer des mois et des mois où on traîne, où on tourne en arrière, où on entre, on rajoute un truc, on dépasse un truc, on n'arrive pas à le trouver. Et puis, un jour, quelquefois, on a l'impression qu'on a trouvé ce qu'on devait faire. Et pour trouver ça, pour moi, il faut être totalement vide dans l'esprit. Il faut être dans un état dépressif et vide. Et puis, les choses qui sont ici dans mon atelier, ce sont des choses pour moi qui sont dans les limbes. Donc, elles attendent. Peut-être qu'un jour, elles seront des œuvres. Parfois, c'est très douloureux, parce que parfois, ça peut durer très, très longtemps. Ces plaques de métal, par exemple, que vous voyez là, je les ai installées au mois de juin sur le mur. Les grandes plaques, là.
D'accord.
Je les ai installées au mois de juin sur le mur. J'ai toujours pas trouvé.
Donc, elles sont verticales et horizontales.
Voilà. Mais j'ai toujours pas trouvé.
Il y a des dates, hein, 1944, 48. Il y a des croix, des plus.
Oui. Mais tout ça, ça me convient pas.
Vous vous êtes dit, je vais utiliser des plaques et inscrire des choses et voir ensuite ce que je pourrais en faire. C'est comme ça que ça fonctionne?
Il y avait là un but qui était au début de faire comme des sortes de pierres tombales ou de pierres, donc de marquer des gens que j'ai connus et qui ont disparu. Mais ça ne m'a pas plu. Donc j'imagine pouvoir marquer des dates, mais ça ne m'a pas plu non plus. Donc peut-être que rien ne sentira.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes obsédé par la mort, ou plutôt par l'absence, et qui est un thème effectivement récurrent dans votre œuvre depuis les années 50-60?
Je pose des questions, vous savez, qui sont très communes. Vous savez, il y a 5-6 sujets, toujours la mort, le sexe, la recherche de Dieu, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. J'ai essayé depuis le début de sauver ce que j'ai appelé la petite mémoire, c'est-à-dire la mémoire quotidienne, la mémoire des petites choses qui n'est pas dans les livres et qui constitue un être humain. Et on s'aperçoit que on ne peut pas la sauver, et qu'on ne peut finalement rien sauver. Là, vous savez, j'ai cette fondation, je collectionne des battements de cœur humains, j'en ai plus de 45 000. C'est dans la mer du Japon, dans l'île de Tsushima, où sont recueillis tous ces battements de cœur, et ça s'augmente constamment. C'était l'idée d'essayer de voir si on pouvait conserver la trace de quelqu'un. Et naturellement, c'est un combat perdu d'avance, parce qu'on ne peut rien conserver, et que dans cette île, bientôt, il y aura des milliers et des milliers de cœurs de mort. Et finalement, si quelqu'un vient, comme c'est possible, dans cette île de Tsushima, écouter le cœur de sa grand-mère, il entendra beaucoup plus l'absence de sa grand-mère que sa présence. Donc en fait, tout essai de lutter contre la mort ou de sauver quelque chose est lié à l'échec.
La danse macabre de Camille Saint-Saëns par l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein.
pense d'une part qu'on peut être un artiste et travailler sur le ratage. Et sans me comparer à Giacometti, la beauté, c'est pas la seule beauté, mais une des beautés de Giacometti est le fait qu'il n'était jamais satisfait et qu'il recommençait chaque jour la même sculpture. Savoir l'annonce de l'échec forcé de l'art est une chose qui est pour moi très importante, et donc on peut essayer de faire quelque chose tout en sachant que ce n'est pas possible.
L'atelier de Christian Boltanski.
C'est formidable de pouvoir dire qu'on travaille sur l'échec en s'épanouissant.
Beaucoup d'artistes avant moi ont travaillé là-dessus, et ce serait trop prétentieux de parler de Giacometti, mais Giacometti a travaillé toujours sur l'essai de capter la vie, l'impossibilité de capter la vie. Je crois là encore que tout artiste essaye d'arrêter le temps, de redonner vie, et qu'on ne peut pas redonner vie.
Et un constat d'échec n'est pas forcément quelque chose qui vous empêche de faire.
Aujourd'hui, je suis beaucoup plus optimiste que je pouvais l'être il y a quelques années, et en partie parce que, effectivement, nous sommes tous uniques et chacun de nous va disparaître. Mais ce qui compte, et ce qui est beaucoup plus important, c'est que les choses continuent. Il y aura dans quelques années, dans cet atelier, un autre artiste et un autre journaliste. Et ce sera ni vous ni moi, mais ils vont se poser des questions à peu près semblables. Nous ne sommes pas remplaçables, naturellement, mais nous sommes heureusement remplacés. Et donc, la seule chose qui me rend très optimiste, c'est de savoir que, effectivement, tout continue. Il y a toujours des nouveaux amoureux sur les quais de la Seine, c'est jamais les mêmes, il y en a toujours de nouveaux. Et c'est ça qui est beau. Je m'intéresse beaucoup au hasard. Vu mon âge et vu ma date de naissance, j'aurais dû être avorté, par exemple, mais je ne l'ai pas été. Donc pourquoi suis-je vivant? Enfin, pourquoi suis-je là?
Vous êtes né le 6 septembre 44, jour de la libération de Paris.
Oui, au moment, trois jours après, disons.
Deuxième prénom, c'est Liberté. C'est magnifique, Christian Liberté.
Oui, c'est un peu lourd à porter de s'appeler Liberté. C'est une chose un peu, comme disaient mes parents pour s'amuser, Liberté, sois sage, Liberté, ne fais pas un imbécile. Bon. Et donc, effectivement, si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que nos parents ont fait l'amour ce millième de seconde précis. Sinon, j'aurais peut-être été une fille, ou en tout cas, j'aurais été différent. Et donc tout ça, tout ce que nous sommes est également lié à un grand hasard. Alors si on est religieux, ce que je ne suis pas, pas directement, en tout cas pas comme ça, on pense qu'il y a un destin, sinon tout ça reste, oui, totalement au hasard. J'aurais pu avoir un nez différent, j'aurais pu être autre... Et donc, cette question qui n'a pas de réponse est une question qui, au fil des ans, devient de plus en plus présente, par exemple.
Mais on peut descendre ?
Oui, oui.
Alors, nous voilà au rez-de-chaussée.
Donc là, on est au rez-de-chaussée, dans le plus grand désordre. Pendant très longtemps, je me disais que plus c'était en désordre et plus qu'il y avait des couches comme décidément. Vous savez, il y a des choses qui sont là depuis très très longtemps et que le fait de nouveau de cette rencontre avec ces choses vont m'aider à travailler. Je sais pas, cette couverture de survie, je dois l'avoir depuis 5-6 ans. Là, il y a un petit gilet rose que je dois avoir depuis aussi 4-5 ans. Il y a des morceaux de bois attachés avec des collants. Il y a beaucoup de fluo. Et tout ça, oui, c'est des choses possibles pour moi et que je manipule assez fréquemment. Je pense qu'on a très peu d'idées dans une vie et qu'on répète toujours plus ou moins la même chose. Et qu'il y a quelque chose qui est l'ordre du traumatisme. Et on essaie de résoudre ce traumatisme. Et généralement, à un moment, on découvre quel est son traumatisme et on essaie de parler de ça et de le résoudre.
Comment le définiriez-vous, le vôtre ?
Moi, je pense qu'il est lié à ma date de naissance et au fait que quand j'étais très jeune... il n'y avait que des survivants autour de ma famille et que j'ai entendu beaucoup de récits de survivants. Et donc ces récits m'ont sûrement traumatisé à l'âge de 3-4 ans, comme ça. Mais disons, je pense que chaque artiste a un moment comme ça au départ, un événement. Enfin. Et après ça, on essaye de parler de ça. Plus on en parle, plus on guérit, en quelque sorte. Et puis, ça nous permet de faire de l'art. Mais, disons, pour être très, très optimiste, j'ai eu 3 moments de création dans ma vie. Une quand j'étais très jeune, une quand mes parents sont morts, et une quand je suis arrivé dans la vieillesse.
Alors, on va essayer de se souvenir de chacune d'entre elles, parce qu'elles sont pas très nombreuses à vous écouter. La première, c'est quand vous faites de la pâte à modeler, et qu'un de vos frères vous dit « c'est bien ».
Alors ça, c'est pré-création. Effectivement, quand j'étais très petit, vous savez, j'allais pas à l'école, j'étais totalement presque malade, incapable complètement, et donc je traînais à la maison, et puis un jour, je fais un petit truc en pâte à modeler, mon frère me dit « ah, t'as fait un joli truc », et donc je me suis dit « voilà, c'est la première fois qu'on me dit que j'ai fait un truc bien, donc ça va être mon métier, donc je fais ça bon. ». Mais j'étais vraiment très autiste, enfin, vraiment très... je ne disais pas un mot, etc., c'est pas comme maintenant. Et puis, après ça, donc le premier moment de création, c'était un moment dont je me souviens très très bien. J'étais en voiture avec mes parents, j'avais quelque chose comme 23 ans. Et là, j'ai compris d'un seul coup que mon enfance était terminée et que ce monde dans lequel j'étais était un monde fini. Et j'ai commencé à faire un petit livre qui a été déterminant pour moi, qui était d'essayer de recueillir tout ce qui restait de cette enfance disparue. Et puis, donc là, j'ai fait beaucoup de choses autour de ça et autour de certaines photos, comme l'album de la photographie de la famille D, enfin, d'essayer de conserver des traces de choses. Et
oui, avec aussi du mensonge dans votre autobiographie, hein.
Oui, naturellement, dans mon autobiographie, j'ai essayé de la faire la plus commune possible. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu parler, je sais pas, ma mère avait une polio et ne pouvait pas marcher. J'ai jamais voulu parler de ce genre de choses. C'est tel, j'ai toujours comme babar, un grand-père, un père, une mère, mais très schématique, disons.
Bon. Par exemple, Christian Boltanski, votre père que votre mère cache pendant la guerre, pendant l'occupation, pour qu'il échappe à la déportation, qu'elle cache sous le parquet toute la journée, il ressort la nuit et seul elle et lui le savent, ce qui est éminemment romanesque et sans doute monstrueux à vivre, ça n'a jamais été dans une œuvre d'art directement.
Non, j'ai jamais pu parler de mes parents. C'est une chose qui m'est tout à fait impossible et d'événements comme ça. Donc,
alors on en était à l'autre choc qui est la mort de votre père et alors, qui vous fait changer votre manière d'être artiste.
La mort de mon père, qui évidemment à ce moment-là on devient soi-même adulte en quelque sorte. 84 m'a rendu beaucoup plus visuel. J'ai commencé des grandes installations, de travailler beaucoup plus avec l'espace. Alors on pourrait dire que ça m'a libéré réellement. Et étrangement d'ailleurs, c'est en 85, la première œuvre comme ça était à la salle Pétrière. Et mon père était mort quelques mois avant dans cet hôpital. Et j'ai fait une œuvre monumentale dans ce lieu-là pour la première fois. Et puis il y a une troisième partie, il y a quelques années, qui est liée à ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a à la fois donc des partitions, de très très grandes installations, mais qui sont détruites par la suite. Et puis il y a des projets, comme le projet des archives du cœur, où là il n'y a pratiquement plus d'objets. Donc aujourd'hui je suis arrivé à un stade qui est différent, c'est-à-dire que je ne veux pas que le spectateur soit devant, mais qu'il soit dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je recherche quelque chose qui est plus de l'art total.
Sunset, season, island, prison, island, ice muscle. changing seasons. Where is this island that looks like a prison? Where is this island that looks like I ask myself so many questions I can't find?
Collectif de 5 musiciens, 15-15, ils chantent Le Jeune.
Le Grand Palais sur les bords de Seine, c'est majestueux, mais sous la verrière, il règne une curieuse atmosphère et des battements de cœur en bruit de fond.
France 2, journal de 20h, 12 janvier 2010.
La semaine dernière, c'était encore le chantier. On construisait une pyramide de 10 mètres de haut, un empilement de vieux vêtements. Conceptuel, me direz-vous, mais déjà l'émotion dominait.
Quelqu'un doit venir ici, il ne doit plus penser à l'art ou à l'histoire de l'art, il doit simplement ressentir quelque chose.
Ressentir, c'est donc le maître mot. Cette grue est l'évocation du doigt de Dieu. Le vêtement est pris au hasard, le hasard de la mort, et devient un esprit.
Et par exemple, quand j'ai fait cette œuvre au Grand Palais qui s'appelait Personne,
Christian Boltanski,
j'ai vraiment voulu qu'il fasse très froid. Et j'ai fait changer la date, ce qui a posé beaucoup de problèmes, parce que je désirais qu'il fasse froid. Et le froid faisait partie de l'œuvre.
L'exposition au Grand Palais, dans le cadre de Monumenta, qui s'appelait Personne avec un S, hein, Personne au pluriel, nous faisait pénétrer effectivement dans le froid, au milieu de ce grand espace, avec une grue qui soulevait des fripes. On pensait à plein de choses, on pensait entre autres à la Shoah, on pensait pas uniquement à la Shoah d'ailleurs, chacun pouvait interpréter ses absents qui ont porté ses vêtements, et il y a eu des personnes qui se sont senties mal, qui ont vécu une sorte de malaise. Ça aussi, peut-être que vous le souhaitiez.
Je souhaite pas que les gens se sentent mal. Je souhaite qu'ils se sentent concernés, qu'ils reçoivent de l'émotion. Oui, mon travail est de donner de l'émotion et de poser des questions. Je me vois pas comme un artiste moderne. Je suis un artiste contemporain puisque je vis aujourd'hui, mais je suis pas un artiste moderne. Et finalement, les questions que je me pose sont des questions qui se sont été posées il y a des centaines d'années. Alors naturellement, j'emploie les mots de mon temps. Là, par exemple, je fais une chose qui m'amuse, qui est une sorte de site où les gens pourront s'abonner pour une somme très modique, et je vais faire 10 films par mois qui seront envoyés à ceux qui seront abonnés. Bon. Et donc là, j'espère toucher beaucoup, beaucoup de monde. J'espère toucher un étudiant dans le sud de l'Inde, une vieille dame en Argentine. Et je me suis engagé à continuer ce travail jusqu'à ma mort. Et je trouve que l'Internet est une chose absolument prodigieuse qui nous permet de toucher tellement de monde, d'avoir une vraie relation avec ces gens, que ces gens reçoivent des œuvres de moi pour une somme qui est totalement non dans le marché de l'art.
Qui est symbolique.
Qui est symbolique, non dans le marché de l'art. Et donc, Dans ma jeunesse, les gens les plus importants étaient, dans la vie d'un artiste, étaient les conservateurs, les critiques d'art et tout ça. Et aujourd'hui, ça tend à être les maisons de vente. Et donc, je pense que c'est un petit peu dangereux. Et je pense aussi que ce lien qu'il y a, naturellement, il y a toujours un lien depuis la Renaissance et toujours entre les gens riches et puis l'art, ce qu'on appelait les mécènes. Et en même temps, je pense que ce lien trop fort aujourd'hui, cette sorte de perte de moralité, aussi bien des conservateurs que des artistes, est une chose un peu inquiétante.
Moi, je trouve ça passionnant parce que vous êtes vraiment, en tant qu'artiste, Christian Boltanski, à contre-courant de ce toujours plus et de ce travailler plus qui est très à la mode.
Si j'ai cette occupation, c'est aussi pour être libre et être libre de travailler, de ne pas travailler, de savoir qu'en fait, c'est quand on ne travaille pas qu'on travaille vraiment. C'est-à-dire la grande tentation que moi j'ai dans ma vie, c'est justement de travailler. Et naturellement, c'est beaucoup plus facile de dire je pars demain pour Francfort, il faut que je me lève à 7h du matin, j'ai un rendez-vous à 11h, plutôt que d'être chez soi à réfléchir. Et donc on a tous une tendance à se donner des fausses choses à faire, simplement pour quitter le malheur d'être chez soi. Et je sais que tout ça n'a guère d'intérêt, mais que ça m'aide simplement à vivre, parce que si je suis toute la journée ici dans cet atelier sans rien faire, c'est là où je travaille vraiment, mais c'est là, c'est tellement dur. C'est tellement dur de ne rien faire. Vous savez, j'avais cette vieille idée que j'ai toujours, mais qui est un peu ridicule, c'est qu'un artiste était quelqu'un qui avait un miroir à la place du visage. Et que chaque personne qui le regardait se voyait lui-même. Et donc, plus on travaillait, moins on avait d'existence, et plus on était que le reflet des autres. Et donc, qu'on n'était plus rien, on n'était que le désir des autres. Et donc, il est certain que la seule chose qui est vraiment passionnante en art pour moi, c'est de passer du plus singulier au plus collectif. C'est-à-dire qu'on ne peut parler que de son village, que de soi-même. Et en même temps, si on est un bon artiste, soi-même devient le soi-même de chacun. C'est-à-dire que chacun va dire, mais comment sait-il que mon oncle était comme ça? Comment sait-il que l'église du village avait deux petits clochons à gauche? Et naturellement, c'est celui qui le lit qui va inventer tout ça. Et je trouve ça très très beau de pouvoir être en même temps totalement local et totalement mondial. Et Proust, par exemple, est totalement les deux. Proust ne raconte que des petites histoires sur sa famille, et chacun qui le lit peut se retrouver.
Vous êtes un grand lecteur ?
Je ne suis pas du tout un grand lecteur. Du tout.
Et c'est un complexe ?
Non. Vous savez, j'ai une culture d'autodidacte. Tout ce que je le sais d'abord beaucoup par la parole, par ce qu'on m'a dit, et puis par l'amitié, si je puis dire, par la rencontre. Et alors, il manque, par exemple, je n'ai jamais lu Balzac. C'est un grand drame, c'est vraiment terrible. Mais je suis presque trop vieux pour commencer à le lire. Vous voyez, j'ai jamais lu Zola. Toute cette sorte de masse de lecture qu'on acquiert, en gros, entre 14 et 18 ans, il me manque complètement.
Mais vous faisiez quoi entre 14 et 18 ans?
J'étais imbécile, oui. Je passais mon temps chez moi sans sortir, à faire de grands tableaux religieux et à rester silencieux.
Vos premières toiles étaient des tableaux religieux?
Tout ça est très, très grotesque, mais...
Pourtant, c'était votre occupation.
Voilà, mais disons, j'ai fait ma première communion. Même si je suis moitié juif, j'ai fait ma première communion.
Parce que votre mère était catholique.
Ma mère était catholique. J'ai fait ma première communion.
Père juif russe, mère catholique corse.
Voilà. Et on m'a offert des livres religieux avec des productions de tableaux religieux. Et ces tableaux religieux ont été ma seule source d'art. Et donc, je les ai beaucoup regardés et donc j'ai voulu copier ça. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de très grands tableaux très mauvais de sujets religieux ou violents. Et avec beaucoup de personnages. Mais j'en suis pas très fier, je dois dire, de tous ces tableaux. Donc, je sais pas si je suis fier de quelque chose, mais pas de ces tableaux. Voilà. Donc, j'étais un enfant, donc, un peu particulier. Et sans doute que j'aurais été dans une famille plus pauvre et non intellectuelle. On m'aurait mis en apprentissage, puisque je voulais pas aller à l'école. Que je me serais sans doute échappé de l'apprentissage et que j'aurais pu très, très facilement rentrer dans un univers psychiatrique. Et que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont accepté ma différence. qui m'ont dit, tu ne veux pas travailler, ne travaille pas à l'école, tu veux rester à la maison, reste à la maison, tu veux peindre, peins. Bon. Et ça m'a sans doute sauvé.
Snow is Falling in Manhattan par le musicien pianiste Chilly Gonzalez avec Feist et Jarvis Cocker. Chilly Gonzalez sera en concert triple affiche sur France Inter en compagnie de François and the Atlas Mountain et Prudence demain soir à 21h, présenté par Laurent Goumard. Nous sommes toujours dans l'atelier du plasticien Christian Boltanski. Christian Boltanski, à côté de nous, il y a d'autres pièces fermées ou ouvertes, en tout cas on peut les fermer. Il semble qu'il y ait pas mal de désordre aussi, donc ça m'intéresse.
Il y a beaucoup de désordre.
Alors, où sommes-nous ?
Nous sommes derrière, là. Alors là, nous sommes tout à fait dans le désordre. Alors là, il y a des vieux papiers par terre, des vieux bouts de carton, des vieux tissus.
Des photos.
Des photos, tout ça est sur le sol, on peut les piétiner comme on veut. Des livres. Il y a des étagères avec des ampoules, il y a des boîtes de métal avec aussi des photos dedans, il y a des transformateurs. Là, il y a des sortes de boîtes de carton qui sont. Les grandes boîtes sont un peu comme des tombeaux. Et il y a des grandes photos sur le sol qui sont en train de pourrir. Là, ça pourrit vraiment.
Ah, là, ça vous ravit, hein.
Oui, non, là, c'est... Là, il y a peut-être de quoi faire. C'est en grattant tout ça, ou en grattant comme les archéologues, à la troisième couche, il y aura peut-être quelque chose qui va peut-être m'apporter quelque chose.
C'est presque une installation en soi de Boltanski.
Non, ça, par exemple, c'est très, très vieux. Ça doit bien avoir 30 ans. Ça a été une œuvre, ça, par exemple.
C'est quoi, hein?
C'est de la terre glaise avec du tissu par-dessus. C'est plus en très bon état, mais ça, ce fut une œuvre. Ça n'est plus, mais ce fut une œuvre.
Et vous la laissez là, pourquoi? Parce qu'un jour, elle sera peut-être une nouvelle œuvre.
Voilà, parce que tout le monde, c'est une partie de ma vie, et elle sera peut-être un jour une nouvelle œuvre. Ça, c'est un bout de photographie. Pourquoi j'ai coupé ce bout de photographie, je ne sais pas.
Oui, on aperçoit une main.
Oui.
Et ça reste par terre, donc je le repose. Hop.
Voilà, ça reste par terre. Et un jour aussi, peut-être que ce sera quelque part, que j'en ferai quelque chose. Ou simplement que de le voir me donnera l'idée d'en faire quelque chose d'autre. Ça, c'est un truc que j'ai acheté, je ne me suis jamais servi. C'est une grande guirlande lumineuse qui doit faire 40 mètres. Et ça restera là pour toujours, parce que là, je vois vraiment pas ce que je peux en faire. Ça, c'est des morceaux de colle. Je trouvais que c'était joli, donc j'ai mis dans une bassine, et puis j'ai relevé la colle. Mais j'ai rien, ça, c'est un vieux chiffon, mm-hmm. Des néons, un truc pour essayer de matifier du métal, des quelques vieux cadres, et une photographie, je sais pas ce que c'est, qui est enfermée là. Voilà.
Donc en fait, je ne peux pas savoir ce que vous êtes en train de créer aujourd'hui. Ce n'est que du mystère.
En fait, parce que je ne crée rien, enfin, c'est en attente. J'attends et j'espère. Vous savez, je disais toujours, quand j'étais prof, je disais toujours à mes étudiants, la chose que vous pouvez faire, c'est attendre et espérer. Attendre qu'un jour peut-être, et on espère qu'un jour peut-être, on aura un peu mieux compris sur le geste qu'on doit faire.
Sauf qu'il s'est quand même passé des moments où vous avez créé Christian Boltanski. Ce sont des moments assez réguliers quand même. Qu'est-ce qui fait que vous trouvez un jour ou l'autre? Comment ça se produit?
Je crois que c'est comme pour tous, c'est-à-dire que c'est on marche dans la rue, on regarde une flaque par terre, on bavarde avec quelqu'un, on regarde un magazine féminin. Quelquefois, c'est en voyant des spectacles de théâtre pas très bons. Parce qu'on est pendant 2 heures fixé dans le noir vers quelque chose. À partir d'un moment, on n'écoute plus du tout le texte et on part. Et très souvent, c'est là où je résous des petits problèmes que je peux avoir.
À un moment, on a dit Boltanski fait partie des souveniristes. Je trouve le terme très beau. Est-ce qu'il est beau ou déplacé ou ridicule ou inapproprié, Christian Boltanski?
Je ne pense pas du tout que je sois un souvenirist. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas un côté nostalgique de mon travail et qui pourrait me mettre là-dedans. Je n'aime pas les vieilles photos jaunies et les vieux meubles. Je ne crois pas. Non, je crois que je tâche effectivement de parler de. Bon, on ne peut pas employer ce mot aujourd'hui de choses qui sont existentielles. Voilà.
Des vieilles photos jaunies, il y en a derrière vous. Ce ne sont pas des vieilles photos jaunies, ce sont des photos du passé où on voit un petit garçon. Avec une petite chemise blanche, on voit une vieille dame, on voit une jeune femme sur une plage en bikini, un homme à vélo, une autre femme avec un gilet. Elles sont accrochées derrière votre bureau, là, à côté de la chaise et de la lampe. Pourquoi ces photos-là, par exemple?
Ces photos avaient un but précis. Elles font partie d'une très grande œuvre qui s'appelle Menschlich et qui se trouve à Wolfsburg, en Allemagne. Et la question que m'a posé ces photos, qui sont tirées du journal Détective et d'un journal espagnol qui s'appelle El Caso, c'est que parmi eux, il y a des criminels et des victimes. Et que forcément, le criminel et la victime ont le même visage et qu'on ne peut pas les différencier. Et donc, c'est dans cette pièce Menschlich, donc immense, puisque je crois qu'il y a 1200 visages, tous sont morts. Mais c'est la paix des cimetières. Tous sont bons et mauvais, sont à égalité. Dans le même ordre d'idées, je vais être très souvent en Allemagne et j'aime beaucoup ce pays. Et donc, j'ai beaucoup amassé de photographies dans des albums de photos faites pendant la période nazie. Et là, on voit comme des gens qui portent l'uniforme SS ou qui sont devant un portrait d'Hitler étaient des humains comme les autres, disons. On les voit embrassant des enfants, fêtant Noël, écoutant de la musique. Et effectivement, ces gens qui représentent le mal n'avaient pas les visages du diable. Ils n'avaient pas du feu qui leur sortait de la bouche et de petites cornes sur la tête. Et ils étaient des gens comme nous. Et ce qui est encore beaucoup plus inquiétant, c'est de savoir si nous-mêmes, nous n'avons pas une part semblable à eux. On peut embrasser son enfant et tuer un enfant. On peut être adoré Schubert comme j'aime Schubert et massacrer des gens. Donc le mal, ou ceux qui représentent le mal pour moi, sont comme nous. Et que sans doute une part de nous fait partie d'eux-mêmes. Bon, le temps est venu peut-être.
C'était l'atelier de Christian Boltanski que vous retrouvez en podcast sur franceinter.fr. Retrouvez-nous aussi, s'il vous plaît, sur le Facebook du Grand Atelier. Et puis revenez, si possible, dimanche prochain, 15h. Nous serons en compagnie du fantôme de Serge Gainsbourg.